Bonjour, merci. Alors, je vais me lancer un chrono pour éviter de dépasser le temps. Je vais donc vous parler de l'arrivée du cinéma sonore à Hollywood, aux États-Unis. Par le cinéma sonore, tous les rêves deviennent réalité. C'est une présentation assez élogieuse du cinéma parlant qui a été faite par le directeur du Grand Rex à Paris dans les années 1920. C'est une phrase qui est très élogieuse, qui suggère que l'arrivée de la parole, c'est la promesse d'un Eldorado, d'un paradis parlant et une véritable révolution. Et ce fut véritablement le cas à Hollywood dans les années 1920. Mais l'arrivée du parlant a aussi brisé beaucoup de rêves et de nombreuses carrières. Comme toute révolution, elle a enfanté de nombreuses ruptures et finalement entraîné une remise en question de l'artisanat même du cinéma et de la façon de jouer. Loin d'être simplement une façon... Une nouveauté technique qui s'ajoute à l'image, elle va redéfinir la façon de faire du cinéma, et plus particulièrement de jouer à l'écran. En effet, quand on joue, on transmet des émotions aux spectateurs, mais cette transmission va être durablement impactée. En fait, ça va rendre inopérantes certaines techniques de jeu, qui passaient très bien avec le cinéma muet, mais qui ne marchent plus du tout avec la parole. En fait, on va briser une transmission qui fonctionnait jusqu'alors, c'est celle des techniques de jeu héritées du théâtre. Transmission est aussi synonyme d'enseignement, et de fait, leur enseignement ne va plus vraiment marcher. On va donc pouvoir étudier la transmission sous ces deux angles, à la fois la transmission des émotions de manière large et la transmission des techniques de jeu comme enseignement. On va voir comment ça s'articule, quand est-ce que ça fonctionne et quand est-ce que ça échoue. Je vais m'appuyer particulièrement sur le film « Babylone », qui est une belle illustration de cette grande odyssée du cinéma parlant. Il est sorti cette année. C'est un film d'inspiration historique qui n'a pas vraiment valeur de témoignage fidèle, mais qui est plus une grande méditation sur qu'est-ce que c'est les enjeux de ce nouveau cinéma. On va voir donc des carrières flamboyantes, celles de Nelly Laroy et Jacques Conrad, qui vont connaître une véritable déchéance jusqu'à la fin du film. On peut aussi rappeler que transmission, ça vient du latin transmissio, qui signifie traversée et passage. Et Babylone pose cette question, vers quoi est-ce qu'on se dirige avec le cinéma parlant? On peut donc voir et s'interroger sur l'impossibilité de la transmission des émotions avec le cinéma parlant, parce que les techniques de jeu héritées du théâtre ne marchent plus du tout. On va voir d'abord qu'il y a une véritable nostalgie du muet qui s'installe dans les années 1920, et c'est la fin d'une transmission magique des émotions. Ensuite, on va pouvoir s'attarder sur l'épopée sonore qui a lieu, puisque des studios au grand public, la transmission des émotions est très délicate. Et en troisième lieu, on va voir que le cinéma trouve peu à peu sa propre voie. Avec la transmission des nouvelles techniques de jeu, le cinéma part à la conquête de sa liberté. Alors tout d'abord, on peut voir que c'est la fin d'une transmission magique des émotions, puisque le cinéma muet, qui privilégie le mime, une technique de jeu héritée du théâtre, a dû peu à peu s'en défaire, mais avec grand peine, puisque de nombreux auteurs et cinéastes regrettent cette technique. Sartre dira par exemple que le cinéma est en train d'acheter le droit de se taire avec l'arrivée de la parole. L'expression est assez parlante et assez dramatique, puisque selon lui, la magie du cinéma y perdrait. Là, il faudrait qu'on revienne à la définition de la magie. Je me suis appuyée sur celle du Robert. La magie, c'est une impression forte et inexplicable, produite par un art. Donc là, on peut se dire que la magie, c'est une manière de transmettre magiquement des émotions, de manière un peu inexplicable. Et cette magie, selon l'auteur Michel Chion, elle vient de l'ambiguïté que crée le silence dans le cinéma muet. En effet, selon lui, le cinéma muet, c'est la suggestion, le mystère, la magie liée à l'absence de son, l'ambiguïté des situations. En fait, tout ce que le cinéma muet transmet comme émotion, c'est extraordinaire, c'est étrange, et ça stimule l'imagination, parce qu'il y a une véritable liberté dans la succession des plans qui n'est pas rendue inopérante par l'arrivée de la parole, qui transmet en effet un message. Et de ce fait, des techniques de jeu vont être rendues inopérantes par le parlant, plus précisément celle de la pantomime. Là, on peut revenir à qu'est-ce que c'est que la pantomime ? C'est une attitude, une mimique, remplaçant le discours et pouvant aller jusqu'à une gesticulation outrée. La pantomime, c'est presque le clownesque. C'est ce qui va être très exagéré, emphatique, qui est une technique théâtrale de jeu. Et ça ne s'utilise qu'en guise de discours. Parce que l'arrivée du parlant va rendre obsolète cette technique d'emphase propre au théâtre. Puisqu'en effet, quand on a déjà un discours, ça ne sert plus à rien de faire de la pantomime. Charlie Chaplin, en 1929, va d'ailleurs accuser le cinéma parlant de s'attaquer aux traditions de la pantomime que nous avons essayé d'établir avec tant de peine à l'écran et sur quoi l'art cinématographique doit être jugé. Pour Charlie Chaplin, en fait, c'est la pantomime qui fait la base et qui constitue l'essence du cinéma. Et l'abandonner n'a aucun sens. Et il clamera d'ailleurs « Vive le silence !» En fait, cette magie du cinéma muet permettait une transmission des émotions de manière opérante. La parole vient briser ce rêve complètement, rendre désuète la pantomime, et on assiste à ce qui peut s'appeler une saturation des techniques de jeu exagérées. Et cette transmission va commencer à transformer les techniques de jeu, et même le fonctionnement des plateaux de tournage. On va pouvoir voir, dans un second temps, l'épopée du son des studios au grand public. On va voir très clairement dans Babylone qu'il y a un changement complet de la façon de faire du cinéma sur les plateaux de tournage. On passe des sets très animés à un grand bazar avec une véritable cacophonie, à des sets en intérieur, donc des pièces fermées qui sont cloisonnées et où le moindre bruit parasite va complètement ruiner une prise son. Là, on a une transmission très très délicate, rien qu'au niveau technique, puisque la captation de son, c'est très difficile de l'obtenir magiquement et on va dire de ne pas avoir de prise de son qui soit ruinée par un tout petit bruit qui vient déranger. C'est aussi la fin des indications de jeu données en direct aux acteurs, parce que dans le cinéma muet, c'était possible de parler aux acteurs pendant qu'ils jouaient. Les réalisateurs le faisaient beaucoup et ça se voit dans Babylone. Nelly Laroy est complètement guidée. Mais en fait, cette actrice s'adapte très très mal à cet environnement clos et contraignant, puisqu'elle se retrouve toute seule au moment de jouer avec le parlant. Elle n'a plus d'indications directes, elle se mélange les passos et elle échoue complètement. Donc là, c'est la transmission ratée d'une nouvelle technique de jeu pour elle. On a aussi un phénomène assez intéressant, c'est la révélation des voix au cinéma, qui va causer une réception difficile du côté du public. Parce qu'il y a des acteurs du muet, on ne connaissait pas du tout leur voix. Et c'est une grande surprise. Et parfois une grande déception, comme dans Babylone. Puisque Nelly Laroy, elle est affublée d'une voix de crécelle. Et ça ne plaît pas du tout. Et sa rééducation vocale, elle échoue complètement dans le film. Mais en contrepoint, on peut citer l'exemple d'une actrice célèbre, Greta Garbo, qui dans le film Anna Christie, tout d'abord en 1930, révèle sa voix. Et son timbre profond et énigmatique conquiert le public. Là, ce film produit par Hollywood a réellement plu, puisque l'arrivée dans le cinéma parlant va vraiment plaire au public. Sa voix, elle conquiert tout le monde. Mais là où il y a rejet de la transmission, il n'y a pas toujours un échec, puisque finalement, ce moment de rupture, c'est aussi l'opportunité pour le cinéma de devenir plus indépendant. Et pour les acteurs, c'est l'occasion de gagner en liberté. Et on peut voir dans un troisième temps que la transmission des nouvelles techniques de jeu va permettre aux gens de conquérir sa liberté. On va voir par exemple qu'il y a l'échec en demi-teinte des techniques de jeu à la Broadway, avec l'exemple de l'acteur Jacques Conrad, qui est sur l'illustration de cette couverture fictive de Photoplay. Sa femme, dans le film, essaye de lui... je crois que je vais avoir du mal à... Ça marche, merci. Il refuse de suivre les techniques de jeu imposées par sa femme, qui est une actrice de Broadway et qui lui conseille une diction très emphatique, très théâtrale, pour finalement plaire au grand public. Mais lui, il lui dit, il est très en colère à ce moment, tout ce qui se passe à l'écran veut dire quelque chose. C'est une manière assez ferme et assez froide de lui dire, l'image a plus d'importance que le son presque. Et là, on va y avoir un phénomène assez singulier. En fait, on commence à se dire que le cinéma, c'est de l'image, c'est du son aussi. Mais comment est-ce qu'on concilie les deux et comment les deux peuvent se compléter correctement? Là, on se demande si, en fait, le parlant, au lieu de se substituer à l'image, il ne devrait pas la compléter et commencer à mettre en place une transmission des émotions un peu plus probante. Et en effet, les cours de diction à la Broadway lui semblent vides de sens. Ça n'a pas d'intérêt au cinéma de parler très fort et d'être très théâtral. Il y a besoin d'un jeu plus intime et plus centré sur l'acteur. Donc ici, le refus de la transmission, ce n'est pas une impasse. Au lieu de s'acharner avec des techniques de jeu théâtral désuètes, on va en trouver des nouvelles. Et on va aussi trouver de bons scénaristes. D'après une lettre datée du 30 novembre 1935, d'une certaine Barbara, qu'on ne connaît pas, qui a travaillé sur un set de Charlie Chaplin à Los Angeles, le film parlant oblige les producteurs à trouver de bons scénaristes. Là, on pourrait se dire, est-ce que ça veut dire que le cinéma muet, ça produisait des scénarios qui étaient complètement nuls, inintéressants? On ne peut pas aller jusqu'à dire ça, ça serait erroné. Mais c'est plus l'idée qu'on ne peut plus se permettre d'approximation scénaristique avec le cinéma parlant. La parole va transmettre des messages, il va y avoir un contenu qui est plus précis, et la liberté qu'il y avait dans le cinéma muet de succession des plans ne va plus pouvoir exister. Il va falloir en fait casser la magie, mais aussi ça nous force à rivaliser de créativité et de rigueur avec le parlant. Donc la transmission brisée des techniques de jeu scénaristique, c'est une opportunité de se renouveler encore une fois. Un piètre scénario, ça passait quand on mimait, mais ça ne passe plus avec la parole. Et enfin, on peut voir que la voix, c'est à la fois une liberté et à la fois une contrainte. Par exemple, dans le film Babylone, Nelly Laroy, elle est prisonnière de sa voix. Son corps était parfaitement libre dans le cinéma muet. Elle était séduisante, elle jouait merveilleusement bien. Et la parole qu'elle n'arrive pas à rééduquer, ça fait que son jeu sauvage, il est terni, il ne fonctionne plus. Et elle incarne en tant que personnage ce cinéma muet qui ne plie pas et ne peut pas se plier aux contraintes du parlant. Donc là, on peut se dire que la parole est prison. Mais d'après Michel Chion, le jeu des acteurs était alourdi, parfois outré, par la nécessité de faire comprendre en geste certaines paroles, certains sentiments, certaines décisions. Donc le langage corporel, très présent dans le film muet, eh bien, il ne va plus fonctionner, puisqu'il s'agissait alors de compenser l'absence de voix. Mais avec son arrivée, il va falloir s'en débarrasser, puisqu'il offre un champ beaucoup plus grand et varié à l'acteur. Le parlant libère le corps de l'acteur, selon Michel Chion. Et en fait, la voix est aussi une forme de liberté, puisqu'elle va permettre un jeu plus léger et naturel. Le corps n'est plus empêtré dans la pantomime et dans l'emphase. On est plus vrai, on est plus sincère et proche de soi. Et ça va être l'occasion de retourner aux techniques de jeu théâtrales, encore une fois, avec le jeu, par exemple, le psychologique à la Stanislavski, un jeu intime et beaucoup plus proche de soi. Pour conclure, l'arrivée du parlant au cinéma, c'est une révolution. C'est une rupture, mais aussi une continuité renouvelée avec les techniques de jeu du théâtre. Des techniques qu'on emprunte, qu'on va questionner, transformer. L'arrivée du parlant vient moderniser en fait les façons de jouer. Les adapter aux prouesses techniques du cinéma en même temps. Le jeu devient réaliste et intime. Et en fait, il faut à nouveau conquérir le public, lui transmettre des émotions et retrouver en fait une magie du cinéma au cœur de cette grande traversée du sang à Hollywood. Merci. C'est vrai, j'en ai parlé avec Elisa tout à l'heure, elle m'a dit, là tu veux, je ne l'ai pas vu. Et si vous avez des choses à dire dessus...
La voix de Gressel, c'est ça. Je crois que c'est la figure fondatrice de l'actrice du cinéma muet, dont on découvre qu'elle a une voix qui ne passe pas du tout le cinéma parlant.
Mais oui, et elle a été doublée, c'est ça, il me semble.
C'est ça. Et on retrouve une référence à cette histoire dans le dernier film d'Anton Abbey. Il y a une référence très explicite parce que l'actrice dont la voix est désagréable est blonde et elle est doublée par une actrice qui est brune. Enfin, on a même physiquement une transposition. Certainement que c'est une opposition, c'est une histoire fondatrice de Segwin Wayne. Elle a certainement été reprise plusieurs fois comme motif. Et, juste une petite référence.
Sinon,
mais c'est intéressant parce qu'effectivement, bah, le personnage de Nelly doit en être inspiré. C'est super.
Oui, c'est la fille aînée de la famille de Downton Abbey qui prête sa belle voix grave,
voilà.
Qui dit papa, etc.
C'est
tout à fait adapté qu'à une voix très sonore pour le cinéma.
Bon, justement, dans Singing in the Rain, elle est vraiment tournée au ridicule. Et elle devient l'antagoniste du film, alors qu'en fait, c'est juste une actrice qui a sa carrière complètement brisée avec l'arrivée du son.
Ouais.
Donc c'est vraiment juste le progrès technique qui vient un peu tuer des carrières comme ça.
C'est ça. Ouais.
Des choses toujours amusantes dans le cinéma muet aussi, ce sont les petits tableaux qui donnent une petite explication assez rapide.
Oui.
L'atmosphère, des films comme ça.
C'est la transition brève. C'est ça. Alors que voilà, la pantomime, c'est parlante, et puis là, on en rajoute une couche.
C'est toujours assez stylisé, d'ailleurs, la manière d'écrire.
Oui, c'est ça, avec des petites... Oui, il y a plein de choses étonnantes qui arrivaient avec... Dans le cinéma muet, on avait même des petits personnages qui donnaient des indications au compositeur, dans une petite lorgnette en bas. Il y a plein de créations qui étaient... c'est magique, du coup. C'est plein de choses qu'on ne peut plus retrouver avec le parlant, qui étaient très libres, et ouais, le parlant enferme vraiment beaucoup. C'est assez étonnant.
On pourrait dire que... Alors, aujourd'hui, au cinéma, les dialogues sont plus naturels. Mm. Le théâtre produit contemporain, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas dans le théâtre, je sais. On peut dire qu'en fait, avec l'arrivée de parler au cinéma, c'est comme si au final, on filmait juste les pièces de théâtre. Et au lieu d'avoir vraiment le genre cinématographique et le genre théâtral, au final, le genre cinématographique meurt et se transforme en genre théâtral qui est simplement filmé, en fait.
Ah !
Je ne sais pas.
C'est intéressant, vu comme ça. Je peux répondre en parlant des captations de pièces de théâtre. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez étonnant à voir. Parce qu'on capte, on filme quelque chose qui est joué pour une salle. Et donc on remplit de son, on est très emphatique. Et ça passe très très mal. Parce qu'on sent qu'il y a une gêne. La caméra, elle a besoin de quelque chose de plus centré et intime. Mais du coup, effectivement, parler de théâtre qui est filmé, c'est peut-être effectivement le théâtre filmé qui marche, puisqu'on va centrer le jeu. Je sais pas si...
Oui, en quelque sorte, ouais, je viens de penser en fait, au théâtre, on peut changer des éléments de décor sur la scène, là au cinéma,
oui.
En fait, vraiment, chaque plan est une scène différente. En fait. Donc c'est peut-être la différence première qui viendrait quand on parle du passage du cinéma muet aux parents.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est le cinéma le plus libre au niveau des décors.
C'est la même chose. Les acteurs doivent s'exprimer comme au théâtre.
Oui, c'est vrai.
Donc, on remercie une dernière fois tous les participants de cette journée.
Une question, quoi. Non, c'était juste pour ajouter, parce que dans Babylone, justement, il y a ce moment où Nelly parle trop fort, et je pense que, justement, c'est au théâtre qu'il faut parler fort.
C'est ça.
Que tout le monde entende, alors que dans Babylone, on a ce problème de ne pas parler trop fort, justement, parce que sinon, les micros...
Ça sature, ça marche pas.
Donc, je pense que c'est pas vraiment, justement, remettre le théâtre à l'écran. C'est vraiment une nouvelle forme de faire du cinéma qui est né à ce moment-là.
Complètement, je suis d'accord.
Donc on remercie une dernière fois tous les participants de cette journée d'études.